Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Fattah Tiemtori.
Oméga, bonjour. À la une de l'actualité, cette question: existe-t-il une piste d'atterrissage secrète au Burkina, comme l'a révélé le journaliste Serge Daniel il y a quelques jours? Les recherches se poursuivent, répond Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, pour attester de l'existence ou non de cette piste d'atterrissage qui servirait à des groupes armés. Au Mali, expulsion du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. L'ONU annonce des mesures. Il est important de rappeler que le personnel de l'ONU ne peut pas être déclaré persona non grata. C'est contraire aux obligations de la Charte des Nations Unies, a réagi le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq. Vous aurez les détails dans ce journal. En Guinée, journée marathon hier pour le président en exercice de la CEDEAO, Oumarou Ambalo Sissoko, et le médiateur de l'organisation sous-régionale, Boni Yayi. Une première prise de contact avec les parties prenantes à Conakry en vue d'initier le dialogue pour un calendrier acceptable de la transition. Et avec notre invité, on revient sur les enjeux de la rencontre de jeudi dernier entre le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et ses deux prédécesseurs, Henri Conan Bédié et Laurent Gbagbo. Pas grand-chose à tirer, selon le journaliste éditorialiste ivoirien André Silver Conan, directeur de publication également d'Ivoire Hebdo et Afrique Soir. Il invite d'ailleurs les trois poids lourds de la politique ivoirienne à passer la main à une nouvelle génération. Entretien à suivre à la fin de cette édition. Madame, messieurs, voici pour le sommaire à développer dans un instant. Bonjour, bon réveil à l'écoute de Radio Oméga. Bienvenue au journal. L'actualité hors de chez nous pour commencer. Le Mali a invité hier le porte-parole de la MINUSMA à quitter le pays dans un délai de 72 heures. Une décision de la transition malienne qui intervient suite aux propos de Olivier Salgado sur Twitter, qualifié de tendancieux et inacceptable par Bamako. On en sait plus avec Adam Skaled Ouedraogo.
72 heures pour quitter le Mali. L'injonction a été communiquée à Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, reçue en audience ce 20 juillet par le ministre des Affaires étrangères. Selon Bamako, Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, a fait une série de publications, je cite, « tendancieuses et inacceptables » sur le réseau social Twitter, déclarant sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport le 10 juillet dernier. Le gouvernement malien indique aussi que le courrier officiel adressé à Olivier Salgado à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet, lui demandant de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire de porter la rectification nécessaire dans la même forme, est resté sans suite. Bamako dit ne pas pouvoir passer sous silence ces agissements qui portent atteinte, dit-il, au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le pays dit cependant réitérer sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA qui compte à quelque 15 000 militaires et policiers, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, avait affirmé que les militaires ivoiriens faisaient bel et bien partie du support national qui collabore directement avec la mission de l'ONU au Mali. Pour le moment, les 49 soldats ivoiriens sont détenus au Mali et considérés comme des mercenaires. Une enquête est ouverte par le procureur général de Bamako pour, dit-il, faire toute la lumière. Lundi, le président de la transition, Assimi Goïta, a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les parties concernées.
Et pour être complet sur cette info, à New York, l'ONU dit regretter profondément cette décision des autorités maliennes, mais annonce des mesures. Il est important de rappeler que le personnel de l'ONU ne peut pas être déclaré persona non grata, a réagi Farhan Haq, le porte-parole de l'ONU, qui précise que cela est contraire aux obligations de la Charte des Nations Unies. En Guinée, une délégation de la CEDEAO avec à sa tête le nouveau président en exercice, Oumarou Ambalo Sissoko, pour initier le dialogue en vue d'un calendrier acceptable de tous. Il est accompagné du président de la commission de l'organisation, Omar Aliou Touré, le Gambien, et du médiateur Boni Yayi, ancien président du Bénin. Une journée marathon pour la délégation qui a rencontré hier tour à tour les ambassadeurs des pays de la CEDEAO accrédités en Guinée. ceux du groupe du G5 et des membres du gouvernement guinéen, dont celui des affaires étrangères et celui de l'administration territoriale. La délégation rencontré le président du Conseil national de la transition et quelques-uns de ses conseillers avant de terminer par le président Mamadi Doumbouya. Les discussions ainsi entamées devraient permettre d'établir un chronogramme consensuel de la transition avant le sommet de la CEDEAO prévu fin juillet. Retour au Burkina pour la suite de ce journal. Depuis quelques jours, des informations font état de l'existence d'une piste d'atterrissage cachée des terroristes au Burkina. Le sujet était au cœur du Conseil des ministres hier. Le gouvernement explique que le commandement du théâtre des opérations nationales continue de mener les investigations pour attester l'existence ou non de cette présumée piste qui servirait à des groupes armés. Il a aussi été question de la Semaine nationale de la culture, une édition qui va se tenir sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». Détail avec Charles Da.
Elle existe, cette piste d'atterrissage clandestine. Le gouvernement burkinabé en est conscient de son existence. Qui sont ceux qui l'utilisent et dans quel but? Les enquêtes sont en cours. C'est justifié le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.
La piste d'atterrissage, oui. C'est une question, lorsque nous l'avons appris, que j'ai posé au COTN. Le COTN continue les investigations et cherche à comprendre également. J'avais déjà personnellement reçu les données bien avant la publication de cette information-là, de la part donc d'une source que je garderai confidentielle. Je l'avais également partagé au niveau de la défense, au niveau de la sécurité, mais également au niveau du COTN, qui l'avait bien réceptionné et avait déjà eu aussi également certaines données ou certaines informations sur ce sujet-là. Le COTN poursuit donc ses enquêtes, poursuit les recherches pour essayer de comprendre d'où vient cette piste d'atterrissage, d'abord si sa véracité est avérée ou pas, et certainement que dans le bulletin d'information de l'armée ou encore lors d'un point de presse organisé par le ministère de la Défense, des informations complémentaires ou des informations beaucoup plus en détail nous seront données.
Le terrorisme reste de nos jours le pire cauchemar des Burkinabés. Cette violence, il faut la stopper et le gouvernement entend nouer des relations bilatérales avec certains pays, d'où la visite de la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, aux Nations Unies. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Également, au niveau des communications orales, la ministre donc des Affaires étrangères a fait le point au Conseil des ministres de son séjour aux Nations Unies, où elle a pu faire des rencontres officielles avec des responsables donc des Nations Unies sur la question donc du Burkina Faso également, la question de la sécurisation de notre territoire, puis la question du travail bilatéral que le Burkina Faso peut avoir avec certains pays également, était à l'ordre du jour.
Toujours dans cette lutte contre le terrorisme, l'État burkinabé pense plutôt qu'il faut bien encadrer l'orpaillage qui est souvent à la merci des terroristes. Lionel Bilgo.
Le ministère également en charge des mines a fait également un point sur la journée donc des accidents miniers, sur la question de l'orpaillage au Burkina Faso qui a été prise en compte lors de ces journées-là. Une réflexion est menée pour organiser au mieux le secteur et surtout encadrer le niveau de l'orpaillage. Il faut dire que dans les zones insécurisées, parfois l'orpaillage est pris en partie et on retrouve souvent, en tout cas dans certaines localités, que la question de l'orpaillage nourrit le terrorisme par endroit. Donc des réflexions sont menées par le ministère donc des Mines pour organiser, encadrer et structurer le domaine de l'orpaillage au Burkina Faso.
Le Conseil des ministres a marqué son accord pour que la Guinée-Conakry soit le pays invité d'honneur de la Semaine nationale de la culture SNC 2022. Cette 20e édition de la SNC est placée sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ».
Merci à Charles Da pour le compte-rendu du Conseil des ministres. Important de rectifier ceci, rien n'indique pour le moment que cette piste existe. Le ministre porte-parole du gouvernement explique simplement que des recherches sont en cours. C'est donc une information toujours en cours de vérification au niveau gouvernemental. Autre actualité, menace de mort contre Newton Ahmed Barry, le forum d'Itanien, une des organisations à laquelle appartient le journaliste, s'est réjoui de l'arrestation du présumé auteur. Commerçant de 35 ans, l'homme s'est fendu d'un enregistrement audio en langue moré dans un groupe WhatsApp qui a vite été relayé dans plusieurs autres groupes dans lesquels il a tenu des propos incitatifs à la violence sur la personne de Newton Ahmed Barry. Guy Yogo, porte-parole du forum d'Itanié, a salué le travail des autorités qui ont agi de façon immédiate pour apporter un soulagement à leurs camarades. Il a été joint au téléphone par Bernabé Cabré.
Nous avons à l'époque sorti donc une déclaration dans laquelle nous avons interpellé donc les autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour que la personne soit interpellée. Et nous nous réjouissons que avec la diligence, la célérité, cela a été possible et que le bureau du procureur a pris les dispositions utiles, que des actes de menace contre l'intégrité morale, physique et intellectuelle des citoyens burkinabés puissent être menacés et que nous puissions continuer de poursuivre dans la construction de la paix et le maintien donc de la cohésion sociale et la liberté de pensée, de parole et d'action. Le forum du dernier va suivre le dossier de près. Déjà, il est prévu donc le 22 juillet, le procès donc au tribunal, et nous serons effectivement mobilisés toujours pour faire en sorte que la justice prévale et que le droit soit dit.
Omega, la suite de ce journal. L'Agence française de développement et le gouvernement du Burkina ont procédé hier à la signature d'une convention d'accord. Il s'agit d'un financement du projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du centre-nord et pour l'extension du projet filets sociaux dans la province du Gourma. Le montant total de la signature de cette convention s'élève à 9,9 milliards de francs CFA. Détail ici avec Pierre Badolo.
14 millions d'euros, environ 9,9 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de l'ADF, Agence française de développement, qui vise à financer deux projets. Le premier est le projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du centre-nord. Luc Allat, ambassadeur de la France au Burkina Faso.
Je pense qu'on répond à une demande gouvernementale, à une priorité gouvernementale. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective a récemment présenté le plan d'action de la transition. Dans ce plan d'action de la transition, la deuxième priorité, c'est répondre à la crise humanitaire. Et en l'occurrence, avec ces actions, à la fois en direction des personnes vulnérables, avec les filets sociaux, à travers cette adduction d'eau dans le centre-nord, je crois qu'on répond effectivement à des besoins essentiels, des besoins humanitaires, mais en même temps, en préparant l'avenir et en anticipant sur les besoins à venir des populations. Donc, je suis très heureux que quelques jours après la présentation de ce plan d'action de la transition, nous soyons déjà réunis dans cette salle aux bonnes nouvelles pour signer ces conventions de financement.
Cette convention de financement entre l'Agence française de développement et le gouvernement du Burkina Faso vient soulager le pays des hommes intègres en proie à la crise sécuritaire. Laza Zungrana, ministre de la Solidarité nationale.
Disons d'abord que c'est au nom de plus hautes autorités Burkina que nous sommes venus ce soir pour exprimer le remerciement donc du Burkina à l'endroit donc de l'Agence française de développement et à travers cette agence, le peuple français. Les besoins humanitaires sont énormes et la France, en agissant de la sorte, vient appuyer un peuple ami dans la réponse donc à la crise humanitaire. Mais au-delà de ça, il y a aussi cet appui en matière donc d'approvisionnement en eau potable. Et je pense que dans le Sahel, le problème d'eau est tout le temps récurrent. Cet appui que nous venons de recevoir de ce peuple ami qu'est la France est à point nommé et nous ne pouvons que nous réjouir en tant que département ministériel en charge de la réponse humanitaire.
Sur les 9,9 milliards de francs CFA, 3,94 milliards est destiné au projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du centre-nord. Et 5,25 milliards sont affectés au financement de l'extension du projet filets sociaux dans la région de l'Est. Le projet sera mis en œuvre par le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire à travers l'unité de gestion du projet mise en place dans le cadre d'interventions précédentes soutenues par d'autres partenaires.
Tout autre sujet, la planification familiale comme un moyen pour maintenir et améliorer la santé des femmes dans le but de contribuer à la réussite des programmes de planification familiale au Burkina. L'Institut supérieur des sciences de la population, en collaboration avec l'université Johns Hopkins, a organisé un atelier de dissémination des résultats de la phase 3 du projet Performance Monitoring for Action. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux différents acteurs de la santé de la reproduction de s'approprier les les résultats clés du round 9 du projet. Cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce mercredi à Ouagadougou. Plus de détails avec Gisèle Tirogo et Neymata Kabouré.
La plateforme de recherche Performance Monitoring for Action, PMA, a été conçue au Burkina pour faciliter le suivi du progrès en santé de reproduction en général et des indicateurs de planification familiale en particulier. Pour cette troisième phase de recherche, les données ont été collectées entre décembre 2021 et février de cette année, et ce, auprès de 5377 ménages et 6078 femmes sur 239 sites de prestations de santé. Les résultats sont jugés satisfaisants, même si des efforts restent à consentir, selon la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Estelle Dabiré.
D'ores et déjà, on peut se dire satisfait. Et déjà d'avoir des résultats, cette plateforme a permis de faire des enquêtes et d'avoir des données. Et on sait que de façon globale, les résultats, bien qu'on soit satisfait d'avoir des données, on n'est pas satisfait de l'atteinte des indicateurs. On a toujours beaucoup d'efforts à faire en matière de santé de la reproduction.
Performance Monitoring for Action est une source importante de données fiables mises à la disposition du ministère en charge de la santé et à l'ensemble de ses partenaires. Dr Georges Guéla, enseignant-chercheur à l'ISPP et coordonnateur de projet, décline les résultats obtenus après analyse de ces données.
Pour les résultats globaux, on va dire qu'environ 32% de la population féminine utilise actuellement la planification familiale, ce qui n'est pas mal parce qu'il reste encore des femmes qui en ont besoin mais qui n'ont pas accès. Deuxième grand résultat, c'est au niveau des prestataires. Nous avons constaté qu'il y a un problème de counseling parce qu'il n'y a que 42% des femmes qui ont bénéficié d'un counseling complet.
Les crises sécuritaires et sanitaires affectent la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des services de santé. Cette situation pourrait exacerber le faible accès des adolescents et des femmes rurales et périurbains aux services de santé, de la reproduction et de la planification familiale.
Un compte-rendu de Gisèle Tirogo et Neymata Kabouré avec la voix de Gilles Dasda.
Omega Sport.
Sportivement, on retrouve Bernabé Cabré pour cette page.
C'est ce soir que sera connu le joueur africain de l'année. Les trois finalistes ont été dévoilés hier par la Confédération africaine de football. On retrouve comme prévu le grand favori Sadio Mané, tenant du titre, mais aussi un deuxième Sénégalais, le portier Édouard Mendy, en compagnie de l'Égyptien Mohamed Salah. Les grands déçus seront l'Algérien Riyad Mahrez et l'Ivoirien Sébastien Haller qui pouvaient viser le podium grâce à leur performance en club mais qui ont moins brillé avec leur sélection nationale. Voici les nominés dans les autres catégories. Meilleur entraîneur de l'année, Aliou Cissé, champion d'Afrique avec le Sénégal, Carlos Queiroz, vice-champion avec l'Égypte et Walid Regragui, vainqueur de la Ligue des champions CAF avec le WAC de Casablanca. Le Marocain Achraf Dari du WAC, le Malien Aliou Dieng du Al Ahly et l'Égyptien Mohamed El Shenawi du Al Ahly se disputeront le titre de joueur africain évoluant sur le continent africain. Le Tunisien Hannibal Mejbri de Manchester United, l'Ivoirien Karim Konaté, ex-joueur de l'ASEC aujourd'hui au Red Bull de Salzbourg et le Sénégalais Pape Matar Sarr de Tottenham sont à la lutte pour le titre de jeune joueur de l'année. Enfin, chez les femmes, le titre de joueuse de l'année se jouera entre la Camerounaise Ajaran Chutjoa, la Nigériane Azizat Oshoala et la Zambienne Grace Chanda. Pour rappel, ces résultats sont le fruit d'un vote effectué par un jury composé de la commission technique de la CAF, de journalistes, d'entraîneurs et de capitaines des associations membres de la CAF, mais aussi des clubs impliqués dans la phase de groupe des compétitions africaines. Restons avec la CAF qui a procédé hier au tirage au sort de la Ligue des champions féminines pour l'édition 2022-2023. Les compétitions vont se jouer par zone et les meilleurs clubs se retrouveront dans un pays pour la phase finale. L'USFA, championne de Burkina Faso, est logée dans le groupe B avec Ayempem d'Arkoa du Ghana, Atleta du Togo et Baelza United du Nigeria pour la phase éliminatoire de la zone UFOA B prévue en septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Championnat du monde d'athlétisme, Marthe Kouala ne prendra pas part à la compétition. L'athlète burkinabé, championne d'Afrique du saut en longueur, n'a pas pu obtenir son visa d'entrée aux États-Unis. Comme elle, plusieurs autres athlètes africains ont renoncé à participer à la compétition à Yougine. Hugues Fabrice Zango sera donc l'unique représentant de Burkina Faso à ces championnats du monde. En 2019, il avait décroché le bronze à Doha au Qatar. Cette année, le triple sauteur burkinabé vise l'or. Il entre en compétition cette nuit à minuit 20 pour les éliminatoires. La finale est prévue dans la nuit de samedi à dimanche.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de cette édition est le journaliste éditorialiste ivoirien André Sylvère Conan, directeur de publication d'Ivoire Hebdo et Afrique Soir. Dans l'entretien que vous allez écouter, il est interrogé sur les enjeux de la rencontre de jeudi dernier entre le président ivoirien Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Pour lui, pas grand-chose à tirer de cette rencontre entre les trois poids lourds de la politique ivoirienne, qui l'invite d'ailleurs à passer la main à une nouvelle génération. Il est interrogé au téléphone par Paul Miki Rwamba.
Monsieur André Sylvère Conan, bonjour.
Bonjour.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré jeudi ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Dites-nous, que peut-on retenir d'essentiel de cette rencontre inédite?
Une ou deux choses. La première, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à retenir. C'était une rencontre entre les trois plus fortes personnalités politiques du microcosme politique ivoirien. La deuxième, c'est que c'est donc une rencontre qui est arrivée opportunément pour participer donc de la décrispation de la scène politique en Côte d'Ivoire. Voilà, ça s'arrête là.
Beaucoup d'Ivoiriens s'attendaient à ce que cette rencontre soit sanctionnée par un accord politique. Est-ce à dire que ça n'a pas été le cas?
Non, ça n'a pas été le cas. Ils ont annoncé qu'ils continueraient les discussions. À mon avis, ce premier contact entre les trois personnalités c'est quand même historique, hein, parce que depuis la crise post-électorale de 2011, les trois personnalités réunies en même temps, on n'avait pas vu cette image. Donc, je pense qu'il y a eu davantage des problèmes d'ordre personnel que des sujets importants qui touchent à la vie de la nation.
C'est néanmoins une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue politique voulu par le président Ouattara, mais aussi c'est un symbole fort pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Que dire donc des victimes de la crise post-électorale de 2011, elles qui, depuis un certain temps, attendent que justice leur soit rendue?
Les victimes de la crise post-électorale ont été oubliées depuis un bon bout de temps, hein, et pas seulement à partir de cette rencontre. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a eu seulement deux procès dans le cadre donc de la crise post-électorale. Le premier procès, c'est celui de Simone Gbagbo. Le deuxième procès, c'est celui de Amadou Rémy. Rappelez-vous, le seigneur de guerre, qui est d'ailleurs de nationalité burkinabé, qui a été jugé et condamné. Et donc, les 3000 au moins morts de la crise post-électorale ont été oubliés depuis un bon bout de temps.
Les hautes fonctions politiques en Côte d'Ivoire sont occupées par ces trois éléphants depuis trois décennies. Ne pensez-vous pas qu'il est temps aujourd'hui de passer la main à une nouvelle génération, comme l'avait d'ailleurs dit le président Ouattara, avant de revenir sur cet engagement en briguant un troisième mandat?
Oui, nous en tout cas, en ce qui me concerne de façon personnelle, je fais partie de ceux qui militent ouvertement depuis plusieurs années pour la retraite politique des trois grands de la scène politique ivoirienne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils étaient soit des collaborateurs, soit des opposants au président Félix Houphouët-Boigny, qui est décédé, tenez-vous bien, en 1993. Et donc, cela fait plus d'un quart de siècle qu'il est décédé, et que ses collaborateurs d'alors, ses premiers collaborateurs d'alors et ses premiers opposants sont toujours dans la politique. La deuxième raison, c'est que les deux premiers, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont déjà gouverné. Le président Alassane Ouattara gouverne actuellement. Et évidemment, après Félix Houphouët-Boigny, nous ne sommes toujours pas à l'émergence promise par chacun des trois présidents.
Oui.
Et donc, du point de vue de la gouvernance et du point de vue donc de la longévité politique, je pense qu'à un certain moment, il faut chercher à tirer sa propre révérence sur le plan politique et encourager l'alternance. Malheureusement, on ne voit pas cela venir, en tout cas pas pour le moment.
Les Ivoiriens seront convoqués aux urnes pour une présidentielle en 2025. Beaucoup pensent qu'une candidature de l'un ou l'autre des trois dinosaures n'est pas à exclure.
Alors, il n'est pas exclu que l'un se présente et ce qui entraînerait effectivement la candidature des deux autres.
Oui.
Ils le disent, le président Alassane Ouattara, quand vous l'écoutez, il dit « si... » Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sont candidats. Moi aussi, je serai candidat. Laurent Gbagbo a déjà affirmé qu'il était intéressé par 2025. en disant très clairement qu'il n'avait aucune intention de se retirer de la scène politique tant que ses autres alter ego, on va dire ça comme ça, sont dans le domaine politique. Henri Konabi dit, lui, il n'est pas encore prononcé, mais nous sommes en 2022 et bientôt il y aura donc un quinquennat à mi-mandat et on n'a toujours pas de lisibilité par rapport à la retraite des trois grands. Il n'est pas vraiment exclu que l'un d'entre eux se présente, quand bien même la candidature de Laurent Gbagbo serait très problématique parce qu'il a été condamné, rappelez-vous, à 20 ans, et pour ce motif, il avait été déjà exclu de la présidentielle de 2020.
Monsieur André Sylvain Conan, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter avec la complicité de Adama Konaté. L'info continue sur Omega. Excellente journée à notre écoute.
Radio Omega, l'info en direct.